Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'égalité homme-femme se joue aussi sur les terrains de football. En Irlande, les footballeuses de l'équipe nationale ont menacé de faire grève en raison des conditions de travail indécentes qu'on leur impose, à milieu des standards de leurs collègues masculins. Côté vestiaire, quand il y en a, les joueuses doivent partager les survêtements officiels et quand elles sont en déplacement, se changer dans les toilettes des aéroports, sans parler de l'absence de compensation financière. La situation a scandalisé beaucoup d'Irlandais et la fédération a dû faire amende honorable. Reportage sur le terrain à Dublin, signé Julien Lagache.
Irlande-Slovaquie, le match amical a finalement bien eu lieu devant 1037 spectateurs, une affluence plutôt faible comparée à un match des internationaux hommes, mais en légère hausse pour les filles en vert. Beaucoup de monde, des familles, des jeunes surtout sont venus les encourager. Leur récent combat pour de meilleures conditions de travail n'est pas passé inaperçu. Patrick, 8 ans, joue chez les Terenure Rangers et il voulait venir assister au match.
I wanted to go to my first international football match.
Je voulais voir une rencontre internationale pour la première fois et ma mère m'a raconté comment les footballeuses irlandaises étaient traitées. Ça m'a vraiment beaucoup surpris parce que les hommes, eux, peuvent changer de survêtement dès qu'ils ont une tache dessus. Je trouve que ce n'est pas juste.
L'affaire des survêtements que les joueuses doivent partager entre elles a marqué les esprits ici, inconcevable pour une équipe nationale dans un pays qui adore le football, mais les joueuses irlandaises ont aussi et surtout réclamé des compensations financières à chaque fois qu'elles portent le maillot national, car comme l'expliquait Áine O'Gorman, attaquante de l'équipe d'Irlande, toutes les membres de la sélection ne sont pas des joueuses professionnelles.
So if we look at the figures between September 2015 and 2016,
entre septembre 2015 et 2016, nous avons toutes dû consacrer plus de 40 jours à l'équipe.
Some girls are taking this as holiday leave.
Certaines ont pris leurs vacances, d'autres ont pris des congés sans solde, et quand on additionne à la fin, ça fait presque 2 mois de salaire sacrifié. Et on attend des remboursements depuis 6 ans.
That's been going on. We've received no reimbursements for 6 years.
En effet, certaines joueuses sont professionnelles et évoluent dans de grands clubs, mais d'autres pratiquent en amateur et travaillent la semaine comme coach sportif ou en entreprise. Cette situation inéquitable par rapport aux hommes irrite Trish, qui garde le sourire puisqu'elle est venue soutenir l'Irlande face à la Slovaquie.
Ces filles sont fières de porter le maillot vert, mais elles ont un vrai travail à côté. Ce n'est pas comme les hommes pour qui jouer est une carrière. Elles travaillent comme tout le monde, de 9h à 17h. Puis elles jouent en club, puis pour la sélection. Ça fait beaucoup. Et il faut encore demander l'autorisation de jouer pour son pays, oublier ses vacances. C'est dur.
Trish, qui encadre des jeunes entre 10 et 12 ans dans un club tout proche, est venue au match avec sa fille, accompagnée d'une amie. Kira et Nadine ont un point commun. Les deux adolescentes jouent aussi. L'une est milieu de terrain à Portlaoise, l'autre est gardienne de but à Killy, et toutes deux aspirent à devenir professionnelles. Nadine a donc été très attentive au récent combat des internationales pour une meilleure reconnaissance.
Je pense qu'il fallait qu'elles s'expriment. Si elles avaient gardé le silence, rien n'aurait bougé et la situation ne s'améliorerait pas. Je suis contente qu'elles l'aient fait et j'espère que ça aidera les vocations de footballeuses à l'avenir.
Compensation financière pour les joueuses non professionnelles, primes de match, remboursement de frais, de meilleurs équipements et encadrement, c'était les principales revendications des Irlandaises qui ont obtenu gain de cause sur l'essentiel. L'accord dont les clauses n'ont pas été révélées a pu aboutir, notamment grâce à un syndicat. Oli Cahill a représenté l'équipe dans les discussions avec la Fédération irlandaise de football et pour lui cette bataille est essentielle pour l'avenir.
Toutes les propositions qui ont été faites à l'équipe ont été adoptées à l'unanimité. Les filles étaient ravies de tourner cette page et de retourner sur le terrain. Ce genre de négociation leur est étranger. C'est pour ça qu'elles nous ont demandé de les représenter. Maintenant, c'est réglé et elles veulent essayer de devenir la première équipe féminine d'Irlande à se qualifier pour un tournoi majeur, la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. On espère que ce nouveau départ sera un tournant pour le football féminin ici.
« D'ailleurs, les joueuses qui ne participent pas à l'Euro de football cet été entament à la rentrée 2017 leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Premier match le 11 septembre avec l'espoir que le public soit désormais aussi nombreux que face à la Slovaquie début avril.
The final score here at the Tallaght Stadium, Republic of Ireland 1, Slovakia 0.
On commence déjà à comprendre que les négociations sur le Brexit vont être un chemin semé d'embûches. Premier obstacle et non des moindres, Gibraltar, territoire britannique situé au sud de l'Espagne. Ses 30 000 habitants imaginent mal s'isoler du reste de la péninsule ibérique. Bruxelles, Madrid et Londres, chacun a une position assez tranchée sur la question. À Londres, Marie Billon.
Dans la lettre que Theresa May a envoyée à Donald Tusk pour déclencher officiellement le Brexit, elle n'a pas mentionné Gibraltar. Et ça a fait jaser. Londres doutait-elle de l'importance du rocher ? Dans le texte de réponse que Bruxelles a publié, Gibraltar en revanche était bien mentionné, aux grandes dames de Londres, car l'Espagne réclame de fait un droit de veto sur l'accord commercial qui sera conclu entre le Royaume-Uni et l'Europe. C'est une atteinte à la souveraineté britannique sur l'enclave, tempête Londres. Nous défendrons nos terres coûte que coûte, a dit le ministre de la Défense. Theresa May fera preuve de la même détermination que Margaret Thatcher en 1982 lors de la guerre des Malouines sur les bords de l'Argentine, a menacé un ancien chef du parti conservateur. Une semaine après le début du Brexit donc, on parle déjà de guerre entre États européens. Les esprits se sont un peu apaisés, mais comme l'a dit Madrid, pour un peuple aussi flegmatique, quelqu'un a perdu son calme. Pourquoi donc les Britanniques sont-ils sortis de leur gond ? D'abord parce que le rocher a beau être à plus de 2300 km de Londres, il est placé à un endroit stratégique, au bord de la Méditerranée, tout près des côtes de l'Afrique du Nord. Ensuite, c'est une grande base pour la marine et l'armée de l'air notamment. En fait, Gibraltar dépend de Londres pour ses affaires militaires et étrangères, mais à part ça, le chief minister, le ministre en chef, est maître sur son rocher, qui ressemble d'ailleurs à un petit paradis fiscal. De nombreuses compagnies y ont leur siège pour bénéficier d'un régime avantageux. L'économie de l'enclave va très bien, merci, et elle bénéficie à son voisin espagnol aussi. 10 000 habitants de Gibraltar traversent la frontière tous les jours pour aller y travailler. La restauration d'un contrôle aux frontières à cause du Brexit serait donc un gros problème pour eux. C'est pour ça notamment qu'ils ont voté à 96% contre. Malgré tout, les habitants de Gibraltar veulent rester britanniques, coûte que coûte.
Taxer les riches pour plusieurs candidats à l'élection présidentielle française, ce mot d'ordre reste d'actualité car dans l'opinion publique, les détenteurs de capitaux, ceux qui possèdent le patrimoine, sont une source parfaitement légitime de revenus fiscaux pour un État surendetté. Pourtant, au centre et à droite de l'échiquier politique, nombreux sont ceux qui tirent la sonnette d'alarme en soulignant qu'en surtaxant l'épargne, la France se tire une balle économique dans le pied. Alors comment sont taxés les revenus financiers en France et comment se positionne-t-on face à nos voisins ? C'est ce que va nous dire Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors Daniel, l'épargne est-elle fiscalement matraquée en France ?
Indéniablement, ces 10 dernières années, les épargnants français n'ont pas été à la fête. Si l'on considère les intérêts sur les placements, hors assurance vie, les dividendes versés aux actionnaires et les plus-values mobilières, celles qui sont réalisées en vendant des actions ou des obligations, eh bien la hausse des taxes a été très significative. Durant le mandat de Nicolas Sarkozy, les prélèvements forfaitaires ont augmenté, les prélèvements sociaux appliqués à l'épargne sont passés de 10 à 15,5% et les seuils d'exonération ont été supprimés. Quant à François Hollande, il a carrément aboli les prélèvements forfaitaires appliqués aux intérêts, dividendes et plus-values pour les réintégrer dans le barème de l'impôt sur le revenu. Et cela au nom du principe de l'égalité de taxation entre capital et travail qui aboutit en réalité à une double taxation, celle du revenu perçu et celle du même revenu placé. Pour les contribuables les plus aisés imposés au taux marginal de 45%, c'est un coup de massue. En 10 ans, la ponction fiscale moyenne sur leur épargne a plus que doublé.
Et qu'en est-il chez nos voisins, Daniel ?
Pour 6 pays, qui sont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Belgique et les Pays-Bas, les intérêts et les dividendes sont imposés de 24 à 30%, soit à peine la moitié du taux français. Dans les quatre premiers pays cités, le système est simple, puisque l'imposition forfaitaire est la même pour tous les revenus d'épargne. Et en Belgique et aux Pays-Bas, de même d'ailleurs qu'au Luxembourg et en Suisse, les plus-values de cession ne sont pas imposées. En clair, si vous vendez des actions ou une entreprise avec un gros bénéfice dans ces pays, vous ne payez rien. En France, votre plus-value vous sera amputée de 60%.
Et quels sont les pays les moins favorables à l'épargne ?
Certes, la Suisse n'impose pas les plus-values mobilières, mais elle taxe les intérêts et les dividendes de façon progressive jusqu'à 45%. C'est le même système au Royaume-Uni pour les intérêts, mais les dividendes ne sont taxés au maximum qu'à 38%. Notons que les actionnaires britanniques plus modestes, ceux qui touchent moins de 38 000 euros par an, ne sont eux frappés qu'à 7,5%. Un chiffre à comparer aux 16,5% que paient en France les actionnaires à revenus moyens. Enfin, le Danemark est le seul pays qui se rapproche de la France, avec des intérêts taxés à 52% et des dividendes et des plus-values à 42%.
Alors vous parlez des plus-values sur les valeurs mobilières, mais qu'en est-il de l'immobilier ?
Presque partout en Europe, le logement principal n'est pas soumis au régime de plus-value qui s'applique aux résidences secondaires et à l'immobilier locatif. En France, la ponction globale atteint 34,5%, mais attention, depuis 2011, elle s'applique pendant les 30 premières années de détention du bien, ce qui est particulièrement long. Certes, il n'y a pas de limite de durée de détention au Royaume-Uni, mais l'imposition de la plus-value est bien moindre et varie de 18 à 28% en fonction de l'importance du gain. Pas de limite non plus en Espagne et une imposition de 21 à 27%. En Allemagne et en Italie, la plus-value est réintégrée au revenu, mais elle ne s'applique que pendant 10 ans outre-Rhin et seulement pendant 5 ans en Italie. Bref, sur l'immobilier également, la France se montre plus sévère pour les propriétaires que ses voisins.
Et puis en France, il y a bien sûr l'impôt sur la fortune.
Oui, un impôt que François Fillon veut supprimer et qu'Emmanuel Macron entend limiter aux seuls biens immobiliers. Il est vrai que la France demeure l'un des rares pays en Europe à taxer directement le patrimoine à partir de 1,3 million d'euros. Hors UE, c'est aussi le cas de la Norvège et de la Suisse. Dans l'Union, alors que de nombreux États ont aboli l'ISF ces 20 dernières années, deux pays pratiquent encore une forme d'imposition sur le patrimoine. Il s'agit de l'Espagne, mais de façon provisoire, qui applique une taxe sur la propriété dès lors que le bien est estimé plus de 300 000 euros. Quant aux Pays-Bas, ils taxent l'ensemble du capital net détenu à 1,2% dans des proportions voisines de la France.
En conclusion, Daniel, comparé à nos voisins, le fisc français semble avoir la main lourde sur l'épargne et le patrimoine.
C'est évident. Et le différentiel de taxation est très élevé par rapport à nos voisins allemands, italiens et espagnols et, dans une moindre mesure, britanniques. Conséquence de cette situation, les ménages français investissent peu dans les fonds propres des entreprises hexagonales, notamment les entreprises innovantes. La part des actifs risqués qu'ils détiennent étant très inférieure à la moyenne de la zone euro, 31% contre 45%. Il s'ensuit également que les actionnaires individuels de nos grands groupes sont désormais majoritairement étrangers, puisque, en vertu des conventions internationales, les placements en France des investisseurs non résidents sont taxés dans le pays d'origine de l'investisseur, ce qui les avantage par rapport aux résidents français. Les Français sont donc en train de perdre peu à peu le contrôle de leur économie, et cela non à cause de l'Europe, mais à cause d'une fiscalité mise en place sous la houlette de Nicolas Sarkozy et de François Hollande.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Bruxelles, deuxième ville la plus cosmopolite du monde, compte 62% d'étrangers, juste derrière Dubaï. Bruxelles est carrefour de langues. Un bar situé tout près de la gare centrale en a fait son fonds de commerce. Tous les vendredis, on y organise un bar à langues. Objectif, pratiquer, échanger, apprendre des langues. Reportage signé Laxmi Lota.
Et voilà, je ne sais pas très bien comment ça se passe par contre.
Ok, donc en fait, vous allez simplement me dire les langues que vous voulez apprendre ce soir, les langues que vous parlez, et moi je vous distribue des drapeaux.
Ils sont belges, suédois, brésiliens, russes, espagnols, japonais ou encore français. Une centaine de personnes se retrouvent dans ce bar chaque vendredi pour cette rencontre multilingue. Olivier Dehert, l'organisateur, distribue des petits drapeaux autocollants à placer sur soi. À droite, les langues que l'on parle, à gauche, celles que l'on désire apprendre, avec une diversité digne de la tour de Babel.
たくさんいろんな人種の人がいてとても楽しいです。 Eu vim para o Rio de Janeiro há 3 semanas.
Я сюда пришла, чтобы попрактиковать французский язык.
Am venit aici pentru că aș vrea să învăț mai mult limba franceză, aș vrea să o practic.
Du japonais au roumain en passant par le russe, les participants peuvent converser avec des personnes dont c'est la langue maternelle.
I'm from Ireland. Le français, j'apprends le français ici.
Je m'appelle Daniel,
du Mexique.
Alors de l'autre côté du monde.
Mais c'est un petit peu difficile de trouver quelqu'un pour parler ma langue maternelle.
Moi, j'ai l'origine italienne et je ne parle vraiment l'italien, donc je voudrais aussi parler l'italien.
Tutto bene, buona sera.
Olivier, 28 ans, et Ilias, 27 ans, sont belges. Ils organisent l'événement chaque semaine.
Donc à la base, quand j'avais commencé, j'étais sur l'apprentissage du russe et du néerlandais. Je m'éparpillais un peu parce que voilà, c'est vrai que dès qu'on rencontre deux personnes qui parlent une langue spécifique, on a vraiment envie d'apprendre quelques mots, etc. Et donc on va dire que je suis plutôt généraliste et voilà, j'ai appris pas mal de mots dans plusieurs langues. Misia Zavut Olivier, donc ça c'est sur le russe. Igben Olivier. Salut Olivier, bienvenue au Multi Language Meetup. Welcome to the Multi Language Meetup.
C'est un environnement confiné entre quatre murs, mais on a l'impression de voyage. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir des Anglais qui me parlent anglais avec leur accent purement anglais, de voir des Italiens et qui je peux parler italien et parler de Dante ou de Botticelli. C'est comme si on voyageait chaque semaine.
Un voyage culturel qui va au-delà de l'apprentissage des langues. Pour Natacha, française, elle vit à Bruxelles depuis 5 ans.
C'est vraiment un super événement parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont un parcours de vie complètement différent que j'ai rencontré, notamment des réfugiés. Et donc c'est vraiment extrêmement enrichissant d'entendre leur histoire et tout ça. Ouais. Et bien, j'ai rencontré quelqu'un qui était un réfugié pakistanais en fait, parce qu'il est d'une minorité ethnique au Pakistan. Voilà, il a fait la route depuis le Pakistan et il a réussi à arriver en Belgique. Et maintenant, il apprend le néerlandais, donc vraiment, c'est impressionnant. Et puis aussi quelqu'un d'autre que j'avais rencontré qui est éthiopien et lui qui est réfugié aux Pays-Bas. Et lui aussi donc, a appris très rapidement le néerlandais, donc voilà.
Beaucoup d'expatriés sont contraints de parler uniquement anglais sur leur lieu de travail. Le bar des langues leur permet aussi de retrouver des compatriotes et le plaisir d'échanger dans leur langue maternelle. C'est également un endroit où rencontrer des gens, tout simplement. Ahad est arrivé à Bruxelles il y a 6 mois.
I expect a beach, Dutch. Et d'où je viens de... Enfin, je suis né à Madagascar, mais je suis moitié français, moitié indien. Je viens à cet événement, en fait, c'est pour rencontrer du monde, parce que là, je suis arrivé à Bruxelles depuis très peu de temps. Et aussi pour parler plusieurs langues, dont l'espagnol, l'anglais, le néerlandais, pour lequel je veux m'améliorer, en fait. Oui, en tout cas, ça permet de rencontrer du monde, de faire des amis, c'est pas trop sûr.
Et pourtant, certains ont eu de la chance. Ils se disent « je t'aime » en néerlandais. Lucas et Noémie, belges néerlandophones, se sont rencontrés au bar des langues il y a 8 mois.
Moi, j'étais en train de parler avec quelques-uns pour pratiquer mon français. Et lui, il vient. Aussi, il était là, donc il commençait en français, mais il a noté assez rapidement que j'étais flamande. Donc on a commencé à en parler le néerlandais.
Elle était belle et en plus, quand je parlais avec elle, c'était intéressant, agréable et elle me plaisait beaucoup. Voilà.
Le brouhaha des conversations fait la joie des organisateurs qui rêveraient bien de réunir en ce lieu les 163 nationalités présentes à Bruxelles.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Sophie Janin. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. À demain.